Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, je vous regardais en même temps sur Europe1.fr, vous êtes beau.
Formidable, merci beaucoup. Vous voulez avoir un boulot pour l'année prochaine.
On ne sait jamais.
Cher Fayot, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Ce matin, je vous parle de BFM qui se fait rappeler à l'ordre, de la BBC qui pourrait donner de bonnes idées à France 4, de la Voix du Nord et de TF1, et d'un podcast qui va faire rugir.
On commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé, Cyril?
The Resident sur TF1 est en tête de la course des audiences d'hier soir. Près de 4 300 000 téléspectateurs ont regardé les deux nouveaux épisodes de la série. Top Chef est un solide deuxième sur le podium. L'émission de cuisine a été suivie par 3 700 000 personnes. Deux gouttes d'eau, le film avec Sylvie Testu sur France 2, est troisième de la soirée d'hier, juste derrière M6, puisqu'à peine 37 000 téléspectateurs de moyenne séparent les deux chaînes. Et pour finir sur les audiences, un mot de Des Racines et des Ailes, également diffusé hier soir. L'émission se classe en quatrième position avec un peu plus de 2 700 000 téléspectateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est sa courbe d'audience. Elle n'a cessé de progresser tout au long de la soirée. Des Racines et des Ailes a gagné 1,5 million de téléspectateurs entre le début et la fin du magazine consacré au littoral basque.
Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias avec le Conseil de déontologie journalistique et de médiation qui a rendu son premier avis.
Sa création avait fait débat. La situation ne va pas s'améliorer après ce premier avis. Le CDJM, c'est son petit acronyme, a tensé BFM TV. En cause, l'interview de l'avocat Juan Branco par Apolline de Malherbe au sujet de l'affaire Griveaux. Une interview qui remonte au mois de février. Selon le Conseil de déontologie, la journaliste de BFM a fait preuve de partialité lors de cet entretien qui, on s'en souvient, avait été particulièrement heurté. Suffisamment en tout cas pour que 23 personnes saisissent ce nouvel organe de contrôle et que celui-ci décide de taper sur les doigts de la chaîne Info. Le Conseil justifie sa décision en disant que les entretiens journalistiques ne sont pas des interrogatoires policiers et que la manière de poser des questions, le choix des termes utilisés et la propension à impliquer à tout prix l'avocat contredisent l'exigence d'impartialité dont aurait dû faire preuve Apolline de Malherbe. Juan Branco s'était immédiatement plaint de la manière dont il avait été traité lors de l'interview. Sans surprise, il a donc remercié le Conseil de déontologie journalistique pour cette décision. Il parle d'un grand hommage. Quant à BFM, on en reste à du no comment.
Une question, France 4 se serait-elle trouvée une alliée du côté de la BBC?
C'est souvent en citant l'exemple de la BBC que le ministre de la Culture a vanté les mérites d'un regroupement de l'audiovisuel public. Va-t-il également suivre ce qui se passe concernant sa chaîne jeunesse? En février 2016, il y a donc 4 ans, la BBC fait le choix de passer sa chaîne BBC 3 sur le numérique et donc de dire adieu au linéaire. À l'époque, le grand patron de la BBC justifie sa décision en soulignant que toutes les études montrent que les jeunes téléspectateurs regardent davantage les contenus en ligne que sur la télé traditionnelle. Autre élément, loin d'être anecdotique, ce transfert permet alors à la BBC d'économiser plus de 30 millions d'euros.
Et donc nous sommes 4 ans plus tard, que se passe-t-il?
Eh bien la BBC réfléchit à faire revenir BBC 3 parmi ses chaînes linéaires. Et pour quelle raison? Eh bien parce que les études d'aujourd'hui disent qu'il y a une forte audience disponible sur la télévision linéaire. Exactement le même argument qu'il y a 4 ans, mais à l'envers. Selon un porte-parole du groupe anglais, plutôt que d'aller consommer les contenus en ligne de la BBC 3, le jeune public est allé sur YouTube et sur Netflix. Alors, est-ce que cet exemple va donner du grain à moudre au ministre de la Culture? Alors que le sort de France 4 semblait scellé, les dernières semaines sont venues remettre en question la décision du gouvernement. De nombreuses associations demandent le maintien de la chaîne, d'autant plus que France 4 a aussi bien joué le rôle d'assistant prof durant le confinement. Hier matin, Franck Riester a dit que la décision concernant l'avenir de France 4 serait prise dans quelques semaines. Il faudra quand même pas trop tarder à se décider. La chaîne jeunesse doit normalement fermer le 9 août prochain.
Et Cyril, vous savez ce que disait le publicitaire Jacques Séguéla au sujet des études marketing?
Dites-moi.
Moins de tests, plus de testicules. Cyril, deux petites infos à nous signaler.
La première, j'y vais. Tout autre chose, c'est clair. La première des infos, c'est, vous vous en souvenez peut-être, je vous en parlais il y a quelques jours, de la très belle initiative de la Voix Nord durant la phase de confinement. Voilà. Le journal avait offert quotidiennement une pleine page à une personne anonyme qui était en première ligne face à la crise sanitaire. En tout, 44 posters avaient été publiés. Et bien, comme un ultime hommage, la Voix du Nord a décidé de leur offrir une affiche géante de 100 mètres carrés affiché sur la Grand Place de Lille, où se trouve justement le siège du quotidien. Et l'autre info, hier, je vous parlais de Destination France, le nouveau format du JT de 20h de France 2, une manière pour la chaîne de faire redécouvrir le territoire aux Français. J'avais demandé justement à la rédactrice du 20h si elle ne marchait pas sur les plates-bandes de Jean-Pierre Pernaut. Eh bien, devinez quoi ? Le 13h de TF1 a lui aussi lancé un format du même genre, Nos vacances en France, un guide touristique pour aider les Français à passer au mieux leur été dans le pays.
Le marché du podcast est décidément en ébullition. Cyril, vous nous parlez ce matin d'un projet militant.
Les Lyonnes lancent leur podcast et son nom est tout sauf une surprise, Rugir. Pour commencer, qui sont ces Lyonnes ? En fait, c'est un collectif d'empowerment féminin. Empowerment, c'est une manière de vouloir donner plus de pouvoir. En l'occurrence, ici, donner plus de pouvoir aux femmes. Et le but précis de cette association, c'est d'assurer la défense, la protection et la promotion des droits des femmes dans le secteur de la publicité. Et ces Lyonnes ont donc décidé de se faire entendre par la voix d'un podcast original. Son principe est simple. Au cours de 5 épisodes, l'histoire relate les témoignages de 17 victimes de harcèlement moral et sexuel dans une seule et même agence de publicité. Et les faits sont vrais. Alors pour raconter cette histoire, ces Lyonnes ont choisi à chaque fois d'utiliser comme fil rouge le sentiment d'une victime, la peur, la colère, la culpabilité, l'isolement et le dégoût. Le premier épisode a été mis en ligne hier. Je vous propose d'en écouter un extrait, vous allez le comprendre. On parle ici de la peur.
L'autre se lève à son tour. Il met sa main sur mon épaule. La serre très fort.
T'aimes pas la hiérarchie, toi ? Ça se voit, t'es une fille du peuple.
Il se met à rire, et moi je craque. Je me mets à pleurer, et ça continue.
De toute façon, toi, on va tellement te pousser à bout, tu vas finir par te barrer. Mais là, tu sais quoi ? Tu vas quand même aller chez le client, présenter ta merde, et tu vas bien fermer ta gueule. Heureusement que t'as de boss, hein, putain.
Les boss sortent du bureau et s'adressent à nous. Vous n'avez rien vu, rien entendu, ok ? Et pas question de commencer à prendre parti, hein ? Et là, on a peur qu'ils nous fassent payer si on parle. Alors on baisse la tête. Puis on dira rien.
Pour parler de ce podcast, j'ai contacté Émilie Cabanier. Elle fait partie du collectif des Lyonnes et elle a participé à l'écriture de ces podcasts. Je lui ai demandé pourquoi son équipe avait justement choisi spécifiquement ce média.
Le podcast résonne par la voix. Finalement, c'est un micro qui nous a permis de faire entendre la voix des victimes pendant le confinement, alors qu'elles sont en première ligne des inégalités. Et on ne pouvait pas rester les bras croisés. Il fallait prendre la parole. Et ce média nous est apparu comme une évidence. Ça fait tout drôle d'entendre des insultes, des injures dans la bouche des victimes. Et on voulait que d'autres l'entendent. L'enfermement peut rassembler pour sortir plus fortes et reliées.
Au-delà du projet Rugir, c'est vrai que le marché du podcast permet de traiter beaucoup de sujets autour des minorités, des violences faites aux femmes, de la cause LGBT ou du racisme. J'ai demandé à Émilie Cabanier justement pourquoi le podcast lui semblait un bon support pour traiter ces sujets par rapport aux médias historiques.
Les médias historiques, ils ne font pas de la condition des femmes une priorité. Et si on ne te donne pas le micro, ben tu dois le prendre. Nous n'avions pas d'autre choix que de devenir notre propre média. En plus, c'est un format qui est de plus en plus consommé et qui est idéal pour aborder tous ces sujets qui sont si nécessaires.
Alors toujours concernant ces Lyonnes, leur démarche ne se limite pas à ce podcast. L'association a fait savoir à l'entreprise concernée par les faits de harcèlement que si elle ne prenait pas des mesures concrètes, elle révélerait son nom publiquement. Le podcast Rugir est à retrouver sur la plateforme SoundCloud et sur Apple Podcast.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Et ce petit bruit va vous intéresser. Culture Média continue.